Bonjour à tous. Donc, je voudrais d'abord terminer le chapitre 9. Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Donc, l'autre jour, j'essayais de rendre compte de ce premier verset du prologue de l'Évangile de Jean. Au commencement était le Verbe. Nous avons parlé de la préexistence. Et comme je le disais en terminant, il reste à évoquer le second versant, une fois qu'on est allé le plus loin possible dans la remontée vers l'origine, le point alpha, eh bien, il faut rendre compte de cette autre affirmation du prologue de l'Évangile de Jean, le Verbe s'est fait chair. Ce Verbe qui, au commencement, était tourné vers Dieu, ce Verbe qui était Dieu, il s'est fait chair un jour du temps. Il s'agit autrement dit de voir comment la christologie qui s'est développée à partir d'une réflexion sur Jésus de Nazareth, christologie d'en bas, il s'agit de voir comment la christologie se retourne en quelque sorte en une christologie d'en haut au moment où, ayant atteint ce point de l'origine, cet instant de l'origine, cet instant que l'évangéliste Jean caractérise par les premiers mots du prologue, au commencement était le Verbe, eh bien, il s'agit de voir comment on redescend, en quelque sorte, vers le monde, vers l'histoire, ce Verbe qui était auprès de Dieu, comment il est devenu chair. Jean 1, 14, le retournement du discours christologique en discours de l'incarnation. Et je le disais en terminant, plus on va loin dans la reconnaissance de cette présence éternelle du Verbe de Dieu à son Père, plus il est saisissant de mesurer justement ce que recouvre l'affirmation de Jean au verset 14, le Verbe s'est fait chair. À ce sujet, il y a une première question qui vaut la peine de poser brièvement, c'est la question que les auteurs latins, surtout au Moyen-Âge, formulaient en ces termes « cur Deus homo ».« Cur Deus homo », ça veut dire « pourquoi un Dieu homme ?»« Pourquoi Dieu est-il devenu homme ?»« Cur Deus homo », c'est le titre d'un traité écrit par Anselme de Canterbury au XIe siècle, saint Anselme. Et donc, les auteurs chrétiens du Moyen-Âge, qui aimaient beaucoup réfléchir sur le fondement de l'Écriture et sur le fondement du dogme christologique, les auteurs du Moyen-Âge aimaient poser cette question qui peut nous sembler abstraite, mais qui en réalité est d'une grande profondeur. Ils posaient la question « Dieu serait-il devenu homme ? Dieu se serait-il incarné si l'être humain n'avait pas péché ?» Bien sûr, tout le monde s'accordait à dire que le Fils de Dieu est venu pour nous et pour notre salut. Donc de toute façon, Dieu s'est incarné, Dieu est devenu homme pour nous sauver. Mais la question que posaient les auteurs médiévaux, c'est est-ce que cette nécessité de remédier au péché est la seule motivation de l'incarnation? Donc, est-ce que Dieu se serait incarné même au cas où l'homme n'aurait pas péché? Alors, sur ce point, il est intéressant de voir que les auteurs du Moyen-Âge apportaient des réponses diverses. Saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, écrit ceci. Il apparaît plus probable, vous avez le texte sous les yeux, hein, il apparaît plus probable que ce mystère de l'incarnation a été ordonné au péché comme un remède, à tel point que sans le péché, l'incarnation n'aurait pas eu lieu. Cependant, il faut reconnaître que pour autant, la puissance de Dieu n'est pas limitée et que Dieu aurait pu, même en dehors de l'hypothèse de la chute, s'incarner. Mais c'est une réponse qui, finalement, est plus nuancée que ce qu'on croirait d'abord. Il commence par dire, bien sûr, Sans le péché, l'incarnation n'aurait pas eu lieu. Et puis, il se reprend, en quelque sorte, il se reprend et il se dit, il ne faut pas que cette réponse donne l'impression qu'on limite la puissance de Dieu. Il dit, au fond, à la limite, bon, Dieu peut faire ce qu'il veut, et donc s'il avait voulu s'incarner, même dans l'hypothèse où l'homme n'aurait pas péché, il aurait pu le faire. Et la réponse de Thomas d'Aquin, qui est plus nuancée que ce que sa première phrase laisse d'abord entendre. Pour Saint Bonaventure, le théologien franciscain contemporain de Thomas d'Aquin, alors, il y a quelque chose de plus radical, puisqu'il dit « Ce n'est pas notre iniquité qui a porté le Fils de Dieu à se faire homme, c'est l'excès de l'amour divin miséricordieux. » Voilà. Autrement dit, ça laisse bien entendre que l'incarnation ne s'explique pas simplement par la nécessité de remédier à l'iniquité ou au péché de l'être humain. Mais il y a un autre franciscain, un autre théologien franciscain, un peu plus tardif, fin XIIIe, XIVe siècle, Don Scott, qui va encore plus loin. Il dit ceci. Premièrement, Dieu s'aime lui-même. Secondo, il s'aime pour les autres. Tertio, il veut être aimé par l'autre qui peut au plus haut point l'aimer en dehors de lui-même. Quarto, il a prévu l'union de cette nature qui devait l'aimer au plus haut point, même au cas où personne n'aurait péché, ou même si personne ne devait pécher. Donc, Don Scott est très déterminé dans le sens suivant. Dieu serait devenu homme. Hein, Dieu, au fond, prévoyait son union avec la nature humaine, même dans l'hypothèse où l'homme n'aurait pas péché. Il le dit d'ailleurs de façon plus explicite encore dans un autre écrit, l'incarnation aurait eu lieu même si l'homme n'avait pas péché. Et dans un autre texte encore, on lit ceci, Dieu a prévu et prédestiné à la grâce et à la gloire le Christ dans sa chair et tous ses élus, avant de prévoir la passion du Christ comme une médecine contre le péché. De même qu'un médecin veut d'abord la santé de l'homme avant d'ordonner un médicament pour guérir. Voilà. Alors, c'est une considération qui peut sembler un petit peu abstraite, parce qu'en pratique, le Fils de Dieu est venu dans un monde marqué par le mal, par le péché, et donc concrètement, en effet, l'incarnation s'explique par la nécessité de remédier à ce mal, à ce péché de l'homme. Cur Deus homo, pourquoi Dieu s'est-il fait homme? Pour libérer du péché, pour nous sauver. Mais l'intérêt de cette réflexion abstraite, cette spéculation des auteurs médiévaux, c'est au moins à travers Bonaventure et surtout Duns Scott, de faire comprendre que le motif profond de l'incarnation ne se limite pas à la seule nécessité de remédier au péché de l'homme. Mais que l'incarnation s'explique par un dessein beaucoup plus positif et inscrit dans l'éternité même de Dieu. De toute éternité, Dieu voulait l'être humain et selon Duns Scott, l'incarnation aurait eu lieu même si l'homme n'avait pas péché. L'autre question qu'il faut se poser à propos de l'incarnation, à propos de ce fameux chapitre, ce fameux verset 14 du chapitre 1 de l'évangile de Jean, le Verbe s'est fait chair, eh bien c'est la question comment comprendre précisément ce devenir chair du Verbe de Dieu. Le Verbe fait chair. Le mot incarnation lui-même est un substantif qui est forgé sur le Verbe. Il est devenu chair. Il est devenu chair, il s'est incarné, et donc, sur cette base, on a forgé, en grec, puis en latin, le terme ensarcosis, pour parler grec, ou incarnatio, pour parler latin, incarnatio, qui a donné en français incarnation. Alors, comment rendre compte, au fond, de ce mystère du Verbe fait chair? ce Verbe qui était présent auprès de Dieu, qui était Dieu et qui, un jour du temps, devient chair. Nous nous rappelons sur ce point le langage traditionnel de la théologie, c'est l'union selon l'hypostase, hein, l'union hypostatique. Le langage hérité du premier millénaire, hein, c'est que le Fils de Dieu a assumé une nature humaine, le Fils de Dieu s'est uni une nature humaine selon son hypostase, hein, selon sa propre personne. Hein. Nous l'avons vu longuement, le Fils de Dieu n'a pas simplement habité une nature humaine, comme on habite un temple, mais c'est le Verbe de Dieu lui-même, dans sa propre personne, dans son hypostase, hein, qui est devenu chair. Voilà. Mais on essayait, à l'époque moderne, d'aller plus loin dans cette compréhension de l'union selon l'hypostase. On s'est demandé s'il ne fallait pas prendre acte de façon beaucoup plus radicale de cette expression joannique, le Verbe s'est fait chair, hein, dire que le Verbe de Dieu, qui était de toute éternité tourné vers Dieu, qui était Dieu, dire que ce Verbe de Dieu est devenu chair, est-ce que cela ne signifie pas, à la lumière notamment de l'hymne de l'Épître aux Philippiens, est-ce que cela ne signifie pas que le Verbe de Dieu s'est complètement anéanti, et donc, en quelque sorte, que Dieu lui-même s'est complètement dépouillé, s'est vidé, comme dit le texte de Philippiens 2, hein, « ekenosen, ekenosen auton », qui a été soulevée par un certain nombre de théologiens à l'époque moderne, c'est si on dit que le Verbe de Dieu s'est fait chair, est-ce que ça n'implique pas qu'il y a un anéantissement non seulement du Verbe de Dieu, mais de Dieu lui-même en son Fils. Voilà. Et certains sont allés très loin, sans doute trop loin dans ce sens, en particulier au XVIIe siècle et plus encore au XIXe siècle. On a vu se développer, principalement en Allemagne et en Angleterre, des théories kénotiques, ce qu'on appelait des théories kénotiques. C'était des théories kénotiques parfois extrêmes. Des théories qui allaient jusqu'à dire, en effet, que Dieu, en prenant chair, au fond, s'était dépouillé de lui-même. Mais on voit bien, du même coup, la difficulté sur laquelle ont buté ces théories kénotiques. Si on dit de façon trop radicale qu'à travers l'incarnation, Dieu lui-même s'est dépouillé de lui-même, à la limite, ça revient à dire que le Verbe fait chair n'est plus Dieu, qu'il est seulement un homme. Or, selon la tradition unanime des premiers siècles chrétiens, le Verbe fait chair est inséparablement vrai Dieu et vrai homme. Il est certes vrai homme, mais ce n'est pas parce qu'il est vrai homme qu'il cesse d'être le Fils de Dieu. Donc les théories kénotiques ont buté sur une sorte d'aporie. Comment rendre-on compte de cet anéantissement, de cette kénose, mais d'une façon qui soit encore compatible avec ce que dit la tradition sur le Verbe de Dieu fait chair, qui est vrai homme, certes, mais qui n'en demeure pas moins vrai Dieu, le Fils de Dieu. À l'époque contemporaine, au XXe siècle, certains théologiens ont essayé justement de surmonter cette impasse, cette aporie sur laquelle ont buté les théories kénotiques dont je viens de parler. En particulier, Karl Rahner, dans un texte intitulé « Réflexion théologique sur l'incarnation », Karl Rahner écrit ceci. Vous avez le texte, sous les yeux. « La doctrine de l'incarnation nous révèle que l'immutabilité, sans être pour autant supprimée, n'est pas simplement ce qui seul distingue Dieu, mais elle nous révèle que Dieu, dans son immutabilité et en dépit d'elle, peut vraiment devenir quelque chose, à savoir Dieu lui-même, Dieu dans le temps. Et il ne faut pas considérer cette possibilité en Dieu comme un indice d'indigence, mais comme l'éminence de sa perfection, qui serait moindre si, en plus d'être infini, il ne pouvait pas devenir moindre qu'il n'est éternellement. » Bon, c'est un texte tout à fait remarquable, dans sa concision même, dans sa densité même. Si vous voulez, le problème des théories kénotiques, c'est que, pour vouloir, à juste titre, rendre compte de la kénose du Verbe de Dieu, le Verbe fait chair, les théories kénotiques en venaient à dire que, finalement, Dieu même cessait d'être Dieu, à la limite, si on poussait jusqu'au bout. Alors, Karl Rahner répond à cela. La doctrine de l'incarnation révèle que Dieu même, dans son immutabilité et malgré cette immutabilité, peut devenir quelque chose, peut devenir, à savoir devenir Dieu dans le temps. Et il ajoute, ce n'est pas là l'indice d'une faiblesse de Dieu, mais c'est l'éminence de sa perfection. Dieu, certes, est immuable en tant qu'il est amour, mais son immuabilité est telle qu'il peut, sans cesser d'être Dieu, devenir autre que Dieu. Voilà le paradoxe que Karl Rahner essaye de mettre en avant. Il va même jusqu'à dire, dans la toute dernière phrase, que la perfection de Dieu serait moindre si Dieu était seulement infini, sans avoir la possibilité de devenir homme, de devenir chair. La perfection de Dieu serait moindre si Dieu était en quelque sorte condamné à être seulement infini. Mais la perfection de Dieu, pour Rahner, elle est telle que Dieu non seulement est infini, mais que comme Dieu infini, il a la possibilité d'assumer la finitude en son Fils devenu chair. Alors ceci peut conduire à une réflexion, si vous voulez, plus thématique ou plus systématique sur la manière dont on peut penser précisément l'incarnation elle-même comme kénose. En fait, lorsque l'épître aux Philippiens emploie ce mot « ekénosène », elle l'emploie, semble-t-il, d'abord à propos de l'humanité de Jésus, le Verbe fait chair, l'humanité de Jésus, qui est allée jusqu'à s'anéantir à un point extrême, jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Mais rien n'empêche, bien au contraire, de concevoir que ce devenir homme du Fils de Dieu, anéanti jusqu'à la mort sur la croix, est lui-même révélation d'un anéantissement qui caractérise Dieu lui-même. À condition de ne pas se méprendre sur le sens de cet anéantissement. Il faut comprendre cet anéantissement ou cette kénose d'une façon qui soit, encore une fois, compatible avec ce que dit la tradition sur Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu. Alors, à quelles conditions peut-on penser l'incarnation elle-même comme kénose ? Bien, une première condition, c'est de maintenir que Jésus-Christ ne renonce pas à la divinité, mais Jésus-Christ renonce à ce qu'on peut appeler, en termes joanniques, la gloire divine. Voilà. voyez l'enjeu de cette première condition, hein, qui, d'une certaine manière, écarte l'aporie de ce qu'on appelle les théories kénotiques. Il faut maintenir que Jésus-Christ ne renonce pas à la divinité, il ne renonce pas à la filiation divine, mais il renonce, le Fils de Dieu renonce à la gloire divine. Pensons en effet à ce que dit Jean, ce que dit le Christ dans l'évangile de Jean, chapitre 17. « Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Ce que le Christ perd, en quelque sorte, ce que le Fils de Dieu perd au moment de l'incarnation, ce n'est pas sa filiation divine. Ce n'est pas là-dessus que porte la kénose. Ce que le Fils de Dieu perd, c'est la gloire. On peut aussi fonder cela sur l'hymne de l'Épître aux Philippiens. Tout fils qu'il était, il ne retint pas, ne chercha pas à accaparer ou à posséder le rang qu'il égalait à Dieu. Il n'est pas dit qu'il cesse d'être le Fils de Dieu. Mais la kénose consiste en ce que, justement, le Fils renonce à ce rang qu'il égalait à Dieu, à cette gloire divine. Vous voyez, c'est ça, c'est là-dessus que porte la kénose. C'est-à-dire, concrètement, il va devenir pleinement homme. Donc ça, c'est la première condition pour penser l'incarnation comme kénose, c'est de maintenir que le Fils de Dieu ne renonce pas à la divinité, mais qu'il renonce à ce que l'évangile de Jean appelle la gloire divine, voilà, ou à ce que l'hymne de l'Épître aux Philippiens appelle le rang qui est égal à Dieu. Alors, la deuxième condition d'une réflexion sur l'incarnation comme kénose, c'est de bien mettre en évidence que l'incarnation est un acte, un événement de la liberté divine. Quelque chose qui a été fortement souligné par les pères de l'Église. Ce n'est pas par une sorte de nécessité dialectique, je ne sais quoi, que le Fils de Dieu est devenu chair. Mais, comme le disait saint Irénée, il y allait du bon plaisir de Dieu. C'est Dieu qui, librement, a voulu devenir homme, devenir chair en son Fils. Nous arrivons ainsi à la formule suivante que j'ai inscrite sur la feuille. Le Verbe fait chair est Fils de Dieu dans l'événement même de son devenir homme. Le Verbe fait chair est Fils de Dieu dans l'événement même de son devenir homme. La formule est extrêmement rigoureuse. On ne dit pas à travers cette formule que le Verbe fait chair cesse d'être Fils de Dieu. On dit bien le Verbe fait chair est Fils de Dieu. Mais comment est-il Fils de Dieu? Eh bien, il est Fils de Dieu, non pas à la manière dont il l'était avant l'incarnation, c'est-à-dire lorsqu'il bénéficiait de la gloire qui était la sienne de toute éternité, mais il est le Fils de Dieu dans l'événement même de son devenir homme. Autrement dit, l'événement même du devenir homme, l'événement même de l'incarnation, ne contredit pas le fait que le Christ est le Fils de Dieu. Bien au contraire, et c'est ça l'inouï par excellence, bien au contraire, c'est cet événement même du devenir homme, c'est cet événement même de l'incarnation qui, paradoxalement, révèle ou manifeste la filiation divine du Verbe fait chair. Vous voyez, le retournement, et à travers une formule comme celle-là, à la fois, nous allons plus loin qu'une certaine tradition qui pourrait conduire à dire « Oui, le Verbe s'est fait chair, mais de toute façon, comme il était Dieu, bon, c'est pas une kénose aussi radicale que ça. » Mais, à l'extrême inverse, la formule que je viens de commenter évite l'écueil des théories kénotiques extrêmes qui laisseraient entendre que le Verbe fait chair n'est plus le Fils de Dieu. Donc, le Verbe fait chair et Fils de Dieu, dans l'événement même de son devenir homme. Il était déjà Fils de Dieu avant de devenir chair. Il demeure Fils de Dieu au moment où il devient chair. Mais cette formule, le Verbe fait chair et Fils de Dieu dans l'événement même de son devenir homme, a du coup une implication. S'il est vrai que le Verbe fait chair et Fils de Dieu dans l'événement même de son devenir homme, alors cela veut dire que ce devenir homme, cette kénose du devenir homme, est comme telle révélatrice de l'être même de Dieu. S'il est vrai qu'il n'y a pas contradiction pour Dieu entre le fait de devenir homme et le fait d'être Fils de Dieu, c'est que le devenir homme du Fils de Dieu révèle paradoxalement l'être même de Dieu. Pour vous montrer que je ne suis pas le premier à dire cela, que je ne fais simplement que tirer les implications du prologue johannique, je me réfère à deux grandes voies de la tradition. La première, c'est la voie d'Origène au IIIe siècle. Nous devons avoir le courage de dire que la bonté du Christ, éclatée, plus grande, plus divine, est véritablement conforme à l'image du Père quand il s'est abaissé lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Donc la bonté du Christ, éclatée, plus grande, plus divine et plus conforme à l'image du Père que s'il avait retenu avidement son égalité avec Dieu et s'il n'avait point consenti à devenir un esclave pour le salut du monde. C'est extraordinaire, ça. La bonté du Christ, plus grande encore, plus divine encore, au moment où le Fils de Dieu ne retient pas son égalité avec Dieu et consent à devenir homme. Autre voie de la tradition, celle de Grégoire de Nyssa, dans le courant du IVe siècle. Le fait que la nature toute-puissante de Dieu a été capable de descendre jusqu'à la bassesse de la condition humaine est une plus grande preuve de puissance que les miracles d'un caractère imposant et surnaturel. L'humiliation de Dieu montre la surabondance de son pouvoir qui n'est entravé en rien au milieu de ces conditions contraires à sa nature. La grandeur se laisse apercevoir dans la bassesse sans déchoir de son élévation. Texte tout à fait prodigieux. On pourrait encore citer d'autres textes. Je pense à un très beau texte de Maxime le Confesseur aussi au 7e siècle. Mais c'est cette idée, hein. C'est cette idée que le devenir homme, la kénose du Verbe fait chair, ne contredit pas l'appartenance du Verbe à Dieu, mais qu'elle la manifeste encore plus, mais évidemment d'une manière infiniment paradoxale et inouïe. Et à notre époque, à l'époque contemporaine, quelques théologiens qui essayaient justement de retrouver cette grande tradition, je pense en particulier à Hans Urson Balthasar, hein, qui a écrit un très beau livre, s'appelle « Pâques, le mystère », dans lequel il médite sur cet anéantissement du Fils de Dieu. Je pense aussi au très beau livre du père François Varillon, « L'humilité de Dieu, la souffrance de Dieu ». Je citais une phrase de l'un de ses livres, du père Varillon. Je pense certainement que là, il y a une voie extrêmement juste. Mais vous voyez, très délicate, très subtile, hein, parce que il faut éviter à tout prix l'écueil de ce que j'appelais les théories kénotiques extrêmes. Dans cette réflexion sur l'incarnation comme kénose, il ne faut pas laisser entendre que le Verbe de Dieu devenu chair ne serait plus le Fils de Dieu. Mais il faut comprendre que le devenir homme n'est pas contradictoire avec la filiation divine du Verbe fait chair. mais que bien au contraire, elle manifeste paradoxalement la profondeur de l'être de Dieu comme amour, amour capable d'aller jusque précisément dans cet anéantissement, cette kénose dont parle l'hymne de l'Épître aux Philippiens. Voilà, je ne sais pas si sur ce point, il y a une autre question avant que nous abordions le dernier chapitre. Oui. Ah ben ça, si vous voulez, alors là, je vous renvoie plutôt à ce que j'essayais de dire, je crois, il y a 15 jours. C'est, là, je vous renvoie à la réflexion de Jürgen Moltmann, la mort en Dieu. Lorsque Moltmann expliquait que sur la croix, c'est le Verbe de Dieu qui meurt, mais ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas un retentissement en Dieu même, dans le Dieu Trinité, de cette mort du Verbe sur la croix. Parce que c'est par ce biais qu'on pourrait, de fait, reprendre cette question. Oui ? Immuable en tant qu'il est Dieu. Dieu est de toujours à toujours, comme dit Yam Shaw, qui dit ça, tu es de toujours à toujours. Hein. Mais cet être dont nous disons qu'il est de toujours à toujours, il se révèle à travers toute la Bible comme un Dieu qui aime. Donc il aime éternellement. Non seulement il est EST éternellement, mais il aime éternellement. En lui, il y a identité de l'être et de l'amour. Et c'est justement parce qu'il y a cette identité de l'être et de l'amour que Dieu peut, par amour, devenir autre chose que Dieu, à savoir un homme, sans cesser d'être Dieu. Oui ? Alors, c'est, en fait, c'est plutôt Augustin qui a dit cela. C'est plutôt la tradition augustinienne, hein, en se référant à saint Paul, bien sûr. Et, bon, ça serait, je pense que là, c'est une question assez différente, si vous voulez. Ça renverrait plutôt à une réflexion sur le salut, sur la rédemption. Hein, c'est-à-dire, c'est une phrase qui ne veut absolument pas dire Dieu voulait la faute pour manifester d'autant plus son amour. C'est pas ça que veut dire la phrase d'Augustin, si on la comprend bien. Mais c'est une phrase qui veut dire, puisque, en fait, il y a eu la faute, eh bien, à cette occasion même, Dieu a manifesté un amour surabondant. C'est ça que veut dire la phrase bienheureuse faute, qu'il ne s'agit pas de justifier ou de cautionner après coup la faute, mais il s'agit de dire que, puisque, de fait, elle a eu lieu, eh bien, elle a été, en réalité, l'occasion d'une manifestation inouïe de l'amour divin surabondant. Là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Je crois qu'il y a une autre question. Oui, oula. Oui. Il se fonde. Je pense que ce qui est derrière lui, c'est d'abord, je pense qu'il a l'esprit des textes comme le premier chapitre de l'hymne aux Éphésiens. Béni soit Dieu qui nous a choisis en son Fils. Voilà. Je ne me rappelle plus je ne sais pas s'il le cite à cet endroit-là, mais je pense qu'il a présent l'esprit des textes de ce genre. Et puis, il est habité aussi par une certaine compréhension de Dieu, enfin, sur le fondement de la révélation, la compréhension de Dieu comme de quelqu'un pour qui la destinée de l'être humain n'est pas simplement quelque chose de secondaire ou d'arbitraire, mais que c'est de toute éternité que Dieu désire la vie, désire communiquer la vie, donc ce qui suppose la création, ce qui suppose l'acheminement de la création vers la communion avec Dieu. D'autres questions ? Oui ? Oui. On peut dire ça. C'est-à-dire, je pense que là, en fait, vous faites plutôt allusion à l'Eucharistie, je pense. Oui, c'est ça. Oui, je dirais l'Eucharistie est à penser dans la ligne de ce que j'ai dit. Là, je m'en suis tenu à l'incarnation. Hein. Mais l'Eucharistie, de fait, peut, je pense tout à fait, être interprétée dans cette même perspective d'une kénose bien, bien comprise. Tout à fait. Et cela, oui, en tout cas, moi, je l'ai dit et enseigné dans le cadre d'un cours sur les sacrements il y a quelques années. Je crois vraiment qu'on peut dire cela. Oui. Alors, disons que c'est surtout vrai en Occident. La raison, si vous voulez, c'est qu'en Occident, on a été très marqué par les controverses qui se sont développées à partir du début du 5e siècle sur la grâce et la liberté, sur le péché et le salut. Je fais allusion au débat entre Augustin et Pélage, voilà. Et du coup, ça a infléchi la théologie de l'Occident dans un sens qui a conduit à insister surtout sur la rédemption du péché, quoi, l'incarnation comme permettant la rédemption du péché. Ce qui est très juste. Il ne faut pas du tout décrier cette tradition occidentale, c'est très très juste. Simplement, ça a conduit parfois à laisser passer à l'arrière-plan d'autres dimensions du mystère, et notamment cette idée que l'incarnation n'a pas simplement pour but de remédier à la faute ou au péché, mais qu'elle s'explique plus positivement par le dessein éternel de Dieu de donner la vie à des créatures et de permettre à ces créatures de communier à sa propre vie. Ce qui, davantage, se trouve souligné par les pères grecs, et qui, dans la perspective de l'orthodoxie, par exemple, aujourd'hui encore, est très très important, cette vision très très positive de la divinisation, la vocation de l'être humain à être divinisé. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer l'une et l'autre tradition. Hein. Chacune dit quelque chose d'important, il faut plutôt essayer de les articuler, comme j'essaie un petit peu de faire ici, si vous voulez. Je crois que... Oui. Parce qu'avant l'incarnation, il n'était pas homme. Non, je disais, pas de la même manière qu'avant l'incarnation. Parce qu'avant l'incarnation, le Fils de Dieu n'était pas homme, justement. Hein? C'est le changement. C'est ça le devenir. C'est ça la transformation, le changement. C'est que... C'est ça la nouveauté de l'incarnation, tout à fait. Oui. Chez nous, on ne développe pas Si vous voulez, on comprend bien quand même que l'insistance se soit portée sur le lien entre l'incarnation et la rédemption. Ce n'est pas seulement, disons, à cause des débats entre Augustin et Pélage. Hein, c'est parce que dans l'Écriture elle-même, c'est dit en toutes lettres. Hein, et dans le symbole des apôtres, hein, dans le symbole de Nicée-Constantinople, pour nous et pour notre salut, il est devenu homme. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner cette perspective... La rédemption, l'incarnation, bien un lien bien une condition essentielle du salut. Hein. Simplement, la réflexion que j'ai proposée ici, à partir de Bonaventure ou d'un Scott, invite à ne pas tout limiter à cela. Parce que sinon, on rétrécirait en quelque sorte le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est pas simplement celui de la libération du péché. C'est positivement le dessein de permettre à l'être humain de communier à la vie même, à la vie divine elle-même. C'est ça. Alors, je pense qu'il faut être prudent par rapport aux hypothèses abstraites des auteurs médiévaux. Est-ce que Dieu serait devenu homme si l'homme n'avait pas péché ? On n'en sait strictement rien. En tout cas, moi, je ne sais pas. Mais je dirais, l'intérêt de ces hypothèses abstraites, de ces spéculations abstraites des théologiens médiévaux, c'est d'attirer l'attention sur le fait que, précisément, la motivation de l'incarnation ne se limite pas à la seule nécessité négative, en quelque sorte, de remédier à la faute ou au péché, mais que c'est de toute éternité que Dieu veut l'être humain et qu'il veut l'associer à sa propre vie. C'est ça le dessein positif tel qu'il ressort notamment de l'hymne de l'épître aux Éphésiens, mais aussi d'autres textes. Oui ? Alors, on peut dire ça, au sens où, par exemple, le Fils de Dieu, devenu homme, est soumis à la faim, à la soif, il doit dormir, il est fatigué, etc. C'est au fond, si vous voulez, le renoncement à la gloire, pour reprendre le terme joannique, c'est une manière de dire, en creux, au fond, l'assomption de la finitude humaine. Quoi. Le Verbe de Dieu, devenant homme, assume la finitude humaine. Donc avec tout ce que ça implique, de limitation spatio-temporelle, il naît dans un peuple particulier, un jour du temps, dans un endroit précis, c'est tout ça. Hein. C'est le renoncement à la gloire divine, c'est tout cela. Mais il n'en est pas moins dans cette humanité même, et jusque dans les limites de cette humanité, jusque dans les limites inhérentes à l'incarnation, il n'en est pas moins le Fils de Dieu. Je reconnais, tout ça est très très subtil, mais en même temps, je crois que c'est important de tenir cette ligne pour éviter soit de sous-estimer l'importance de la kénose, soit au contraire de la comprendre d'une façon telle qu'elle n'honorerait plus l'énoncé traditionnel sur la filiation divine. Mais c'est un peu ça que je dirais à propos de la gloire divine. Voilà. Alors, nous allons tout petit peu entamer le dernier chapitre que j'intitule « Il reviendra dans la gloire ». Parce que je l'annonçais déjà l'autre jour, il ne suffit pas simplement de penser l'événement du devenir homme de Dieu en Jésus-Christ il y a 2000 ans. Il ne s'agit même pas de penser simplement le don de Dieu à travers le mystère pascal, mais il reste à penser la manière dont le Christ ressuscité se trouve, au-delà même de sa résurrection, en relation avec l'histoire des hommes. Et il reste enfin à réfléchir sur l'attente de sa venue dans la gloire, pour reprendre l'expression traditionnelle. Donc c'est l'objet de ce dernier chapitre, qui se déroulera en deux temps. En premier temps, la présence du Christ à l'histoire des hommes. Cette fois, nous sommes au-delà du ministère public de Jésus, nous sommes même au-delà du mystère pascal. Qu'en est-il de la présence du ressuscité à l'histoire des hommes depuis la résurrection ? Voilà, c'est le premier temps. Et puis le second temps, il faudra réfléchir sur... il y a trois temps. Bon, premier temps, donc, la présence du Christ à l'histoire des hommes. Deuxième temps, nous y sommes de plus en plus sensibles aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a, pas que les êtres humains, il y a la nature, il y a le monde, il y a le cosmos. Donc qu'en est-il, qu'est-ce qu'on peut dire autour de la présence du Christ à la nature et au cosmos? Et puis, troisième temps, alors qu'en est-il de la venue du Christ dans la gloire ou de ce que la tradition appelle la parousie du Christ à la fin? Je n'aurai sans doute pas le temps de terminer aujourd'hui. Ce que je ne dirai pas aujourd'hui, ce sera pour la fin, pour la séance de mardi prochain. On pourra déborder sur la dernière séance avant la conclusion générale de notre parcours. Alors, je voudrais au moins commencer le premier temps de notre réflexion, la présence du Christ à l'histoire des hommes. Comment penser la relation du Christ ressuscité avec le temps de l'histoire? Non plus simplement de l'histoire avant sa venue, mais de l'histoire depuis sa venue. D'entrée de jeu, je souligne qu'une telle réflexion impliquerait une théologie de l'esprit. Ce qu'on appelle en langage technique une pneumatologie. J'aime pas beaucoup ce mot. Disons une théologie de l'Esprit-Saint. Bon, je ferai bien sûr référence à l'Esprit-Saint. Mais il faut savoir que depuis quelques décennies, c'est relativement récent, il y a eu des efforts pour développer précisément des christologies. C'est une expression barbare. On appelle ça parfois des christologies pneumatologiques, des christologies en lien avec une théologie d'Esprit Saint. Moi, je préfère articuler avec une théologie d'Esprit Saint. Quoi qu'il en soit de ces tentatives, la remarque préliminaire qu'il faut toujours, je pense, avoir présente à l'esprit lorsqu'on aborde ce nouveau chapitre, c'est que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, c'est celui qui rend le Christ présent. L'Esprit rend le ressuscité présent au long de l'histoire. L'Esprit, c'est celui qui rend présent le Christ glorifié. Je le dis d'entrée de jeu parce que je ne parlerai pas beaucoup de l'Esprit Saint. Mais je crois que c'est très important d'être d'emblée dans cette perspective, de se dire qu'on ne peut pas parler du Christ ressuscité dans sa relation avec l'histoire des hommes sans parler implicitement au moins de l'Esprit Saint. Puisque justement c'est l'Esprit qui, dans le temps de l'histoire et dans le temps de l'Église en particulier, c'est l'Esprit qui rend le Christ présent. Jésus, nous ne le voyons plus, mais le Christ est présent. Et comment le Christ est-il présent? Précisément par son Esprit. Ce qui veut dire aussi que là où on n'accueille pas l'Esprit du Christ, le Christ n'est pas présent, évidemment. Alors, dire que l'Esprit rend présent le Christ glorifié, le Christ ressuscité, ça ne veut pas dire pour autant que l'Esprit vient à la place du Christ. Non, ça veut dire simplement que l'Esprit rend le Christ présent partout où cet Esprit est répandu. L'Esprit ne remplace pas le Christ. Ça veut dire qu'il y a bien une vie personnelle du Christ ressuscité. Une vie personnelle du Christ ressuscité. Jésus-Christ ressuscité, assis à la droite du Père, comme on le dit de façon imagée dans le symbole, Jésus-Christ ressuscité vit d'une vie personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vit lui-même. Il vit lui-même et il se rend présent. Parler de vie personnelle, ça implique bien sûr une certaine compréhension de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Christ ressuscité est pleinement une personne, la personne du ressuscité. Ben, ça veut dire d'une part que le Christ ressuscité est totalement donné à son Père dans la force de l'Esprit. Si on considère, on contemple le mystère de la Trinité, le Christ ressuscité est totalement donné à son Père dans la force de l'Esprit. Mais dire que le Christ est pleinement personne, ça veut dire en même temps que le Christ ressuscité continue de s'offrir, il continue de se donner aux hommes dans le temps de l'histoire. Le Christ, certes, s'est donné une fois pour toutes en livrant sa vie au Golgotha. Il n'en demande pas moins celui qui continue de se donner aux hommes et aux femmes dans le temps de l'histoire. Il est présent pleinement à son Père, dans la force de l'Esprit, dans le souffle de l'Esprit, et il est également un avec nous, pourvu que nous soyons accueillants à sa présence, il est un avec nous jusqu'à la fin du monde. Matthieu, chapitre 28, verset 20, c'est le dernier verset de l'évangile de Matthieu, la parole du Christ ressuscité. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi un parcours de christologie ne peut pas simplement s'en tenir à une réflexion sur le ministère public de Jésus, sur sa passion et sur sa résurrection. Mais un parcours de christologie doit inclure une réflexion sur le présent. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Sur ce fond, il faut donc essayer de préciser davantage ce qu'est cette relation du Christ avec l'histoire humaine depuis la résurrection et jusqu'à la fin des temps. Mais cela demande d'abord un peu de recul, et donc je propose qu'on fasse une pause, parce que sinon ça nous engagerait trop loin, pas jusqu'à la fin, mais enfin ça nous engagerait trop. Il vaut mieux, je crois, interrompre maintenant, et puis donc après la pause, on essaiera de préciser que peut signifier cette présence du ressuscité à l'histoire humaine depuis justement la résurrection jusqu'à la fin des temps. Donc c'est par l'esprit, c'est seulement par l'esprit que nous pouvons avoir accès au Christ dans le temps de l'histoire. C'est seulement par l'esprit. L'esprit étant celui qui rend le Christ présent. Alors, il faut essayer de voir comment cette relation du Christ avec l'histoire humaine peut être précisée. Et on pourrait dire que elle peut être précisée à la fois de façon négative, en creux, et en positif. Négativement, c'est petit a sur le plan, négativement, le Christ ressuscité demeure soumis dans l'histoire à la violence et au péché. Là, précisément, où il n'est pas accueilli, enfin, là où l'esprit n'est pas accueilli, comme dit saint Paul, là où l'esprit est contristé. Le Christ ressuscité, dans ces cas-là, demeure soumis dans l'histoire à la violence et au péché. On pourrait élargir, on pourrait dire aussi, il demeure soumis à l'épreuve du mal. L'épreuve du mal qui, évidemment, déborde de très loin la seule considération du péché. le mal dont on est victime, le mal-malheur qui vous tombe dessus, etc. Alors, il peut être utile de repérer comment le Nouveau Testament déjà donne quelques appuis pour penser dans cette direction. On peut recueillir d'abord ce verset de l'Épître aux Colossiens, Colossiens 1, 24. « Je trouve maintenant ma joie, dit Paul, dans les souffrances que j'endure pour vous, et ce qui manque aux détresses du Christ, je l'achève dans mon corps. » Alors, une autre traduction qui, je pense, est plus fidèle au texte de Paul, qui dit « Je complète ce qui manque aux tribulations du Christ en ma chair pour son corps, qui est l'Église. » C'est une formule qui est évidemment intéressante, importante, parce qu'elle dit explicitement que même après la résurrection, il y a place pour des tribulations du Christ. Il y a place pour des détresses du Christ. L'apôtre Paul se trouve lui-même conduit à endurer sa part de souffrance. Un autre passage qu'on peut recueillir du Nouveau Testament, c'est le chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux, verset 6. C'est un verset terrible, hein, quand on y pense. Ceux qui sont retombés, donc l'Épître aux Hébreux fait allusion à ceux qui ont été baptisés et qui sont retombés, il faut comprendre, gravement. Il s'agit de fautes, chutes, des fautes très graves. Donc ceux qui sont retombés, il est impossible qu'ils trouvent une seconde fois le renouveau de la conversion. Alors que, pour leur compte, ils remettent sur la croix le Fils de Dieu et l'exposent aux injures. Ils crucifient de nouveau le Fils de Dieu. C'est un verset terrible, hein, si on y pense. C'est-à-dire que, bien sûr, la croix du Christ est unique. Le Fils de Dieu est mort une fois sur la croix. Mais retomber dans des fautes graves alors qu'on a été baptisé, alors qu'on a reçu le baptême pour la rémission des péchés, c'est, nous dit l'Épître aux Hébreux, une manière de crucifier à nouveau le Fils de Dieu. Il y a un roman d'un écrivain grec du XXe siècle qui s'appelle « Le Christ crucifié ». Le Christ crucifié. Son nom m'échappe. Kazantzaki, hein, c'est ça? Non. Pardon? Voilà, le Christ recrucifié. Recrucifié. Voilà, c'est un verset qui, en fait, très très vite, hein, les premiers chrétiens au IIe siècle se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas s'en tenir là, quoi. Et on ne pouvait pas ne pas donner une deuxième chance à ceux qui étaient ainsi retombés. Et c'est ainsi qu'au IIe siècle, un auteur chrétien, l'auteur d'un livre qui s'appelle Le Pasteur, a dit que après le baptême pour la rémission des péchés, il y avait la possibilité tout de même de recevoir le sacrement du pardon, le pardon. Enfin, on n'appelait pas ça le sacrement à ce moment-là, c'était possible de recevoir la pénitence, de faire pénitence et d'être pardonné. Mais, disait le pasteur Dermas, une seule fois, une seule planche de salut pour ceux qui sont retombés après le baptême. Voilà. Puis, il s'est passé que, dans les siècles qui ont suivi, même cela est paru intenable. Et puis ça donnait même lieu à des formes de perversion. On a le témoignage de cela indirectement par des sermons de Saint César d'Arles, par exemple. Parce qu'il y a des gens qui disaient, bon ben j'étais baptisé, puis j'ai rechuté, mais si je demande tout de suite le pardon, en fait il n'y a plus de chance possible avant ma mort. Donc je vais attendre le plus longtemps possible et je continue à faire tout ce que je veux pendant ce temps-là. Et puis juste quand je sentirai que ça tourne mal et que la mort n'est pas loin, alors là, je demanderai la pénitence. Donc c'était du coup l'occasion d'une sorte de perversion complète. Et c'est pour remédier à cet aspect que des moines originaires d'Irlande, vers le 7e, 8e, 9e siècle, ont introduit progressivement la pratique de la pénitence réitérable. Voilà. Et vous voyez, il y a toute cette histoire derrière. Alors, nous, on est très heureux aujourd'hui de pouvoir bénéficier de cette pénitence réitérable. Mais du coup, le piège, c'est qu'on risquerait parfois, au nom de cela, d'oublier quand même le sérieux du baptême pour la rémission des péchés et ce fameux texte de l'Épître aux Hébreux qui est quand même d'une grande force. Voilà. Pardon ? Oui. Voilà. Alors, il faudrait aussi invoquer bien d'autres textes, et notamment, comme je le mentionne ici, les passages de l'Apocalypse sur la violence contre l'agneau. Ce livre de l'Apocalypse, contrairement à l'impression qu'on peut avoir parfois, n'est pas un livre qui parle seulement de la fin. C'est un livre qui parle du présent. C'est un livre assez tardif, hein, vers la fin du 1er siècle, ou tout début 2e siècle. C'est un livre qui parle notamment de la situation des chrétiens, une ou deux générations après le Christ. C'est un livre qui parle non seulement de la situation des chrétiens, mais de la situation des églises, hein, des lettres aux sept églises au début de l'Apocalypse. Car très tôt, finalement, après la mort, la résurrection et l'ascension du Christ, très tôt après cela, eh bien, il s'est passé toutes sortes de choses, soit ad intra, lorsque des églises sont devenues tièdes, se sont rebellées, etc., enfin, ce que dénonce l'auteur de l'Apocalypse, hein, au début, dans le chapitre 1 à 3, soit ad extra, lorsque des chrétiens se sont trouvés en butte aux persécutions, hein, persécutions déclenchées par l'empereur Néron, par exemple, en 64, hein, etc. Donc, le Nouveau Testament ne manque pas de textes, hein, qui attirent l'attention sur le fait que même après sa mort, même après sa résurrection, même après son ascension, le Christ peut être, d'une façon ou d'une autre, et sans doute de bien des façons, atteint par le mal, blessé par le mal en ses diverses formes. Le mal peut être commis de l'extérieur, c'est le cas des persécutions, mais le mal peut être aussi commis de l'intérieur, c'est le cas chaque fois que des chrétiens, des baptisés, retombent dans des fautes graves. Je voudrais vous citer un texte d'Origène qui est tout à fait impressionnant. Donc, Origène est en train de commenter un passage du Lévitique où il est dit que le Seigneur pleure les péchés de son peuple. Et Origène, non sans audace, applique rétrospectivement ce passage du Lévitique au Christ ressuscité. Au Christ ressuscité. Je lis le texte, hein, il est un peu long, mais voilà, je voulais pas vous je crois que ça vaut la peine de l'entendre dans son ensemble. « Mon Sauveur, maintenant encore, pleure mes péchés. Mon Sauveur ne peut être dans l'allégresse tant que je demeure dans l'iniquité. Pourquoi ne le peut-il pas? Parce que lui-même est avocat pour nos péchés auprès du Père, comme le déclare Jean, son intime. Si quelqu'un vient à pécher, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, et il est, lui, la victime propitiatoire pour nos péchés. Lui qui est avocat pour mes péchés, comment peut-il donc boire le vin de l'allégresse quand moi je le contriste en péchant? Lui qui s'approche de l'autel en victime propitiatoire pour moi, pécheur, comment peut-il être dans l'allégresse quand la tristesse de mes péchés ne cesse de monter vers lui? Je le boirai avec vous, dit-il, dans le royaume de mon Père. Tant que, de notre côté, nous n'agissons pas de façon à monter vers le royaume, il ne peut pas, lui, boire seul le vin qu'il a promis de boire avec nous. Il est donc, vous vous rendez compte, hein, il s'agit de ressusciter, hein, de Christ ressuscité. Il est dans la tristesse tant que nous persistons dans la faute. Car si son apôtre pleure sur certains qui ont péché jadis et n'ont pas fait pénitence pour leurs actes, que dire de lui qu'on appelle fils de l'amour, qui s'est anéanti lui-même à cause de l'amour qu'il nous portait, et qui, bien qu'il fût égal à Dieu, n'a pas cherché son avantage, mais a cherché notre bien, et pour cela s'est vidé de lui-même. Après avoir ainsi cherché notre bien, est-ce qu'il cesse maintenant de nous chercher, de penser à notre bien, de s'attrister de nos errements, de pleurer notre perte et nos blessures? Lui qui a pleuré sur Jérusalem et lui a dit, Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins et tu n'as pas voulu. Lui donc, qui a pris nos blessures et qui, pour nous, a souffert comme médecin de nos âmes et de nos corps, est-ce qu'il néglige à présent les infections de nos blessures? Car, comme le dit le prophète, infectes et purulentes sont nos plaies par suite de notre folie. Voilà donc pourquoi il se tient maintenant devant la face de Dieu, intercédant pour nous. Il se tient à l'autel pour offrir à Dieu une victime propitiatoire en notre faveur. Aussi disait-il, comme sur le point de s'approcher de cet autel, « Je ne boirai plus du fruit de cette vigne jusqu'à ce que je le boive nouveau avec vous. » Il attend donc que nous nous convertissions, que nous imitions son exemple, que nous suivions ses traces, et qu'alors il se réjouisse avec nous et boive du vin avec nous dans le royaume de son Père. À présent, comme il est miséricordieux et Seigneur de miséricorde, c'est avec plus d'affection que son apôtre, que lui-même, pleure avec ceux qui pleurent et désire se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Car il ne faut pas penser que, d'un côté, Paul s'afflige pour les pécheurs et pleure pour ceux qui font le mal, mais que, d'un autre côté, Monseigneur Jésus s'abstienne de pleurer quand il accède auprès du Père, quand il se tient à l'autel et qu'il offre pour nous une victime propitiatoire. C'est dire qu'en approchant de l'autel, il ne boit pas le vin de l'allégresse parce qu'il subit encore l'amertume de nos péchés. Il ne veut donc pas être seul à boire le vin dans le royaume de Dieu. Il nous attend, car il a dit « jusqu'au jour où je le boirai avec vous ». C'est donc nous qui, négligeant notre vie, retardons son allégresse. Au XIIe siècle, Saint Bernard, dans son abbaye, a consacré un sermon tout entier à ce texte d'Origène que je viens de lire. Pourquoi ? Eh bien parce que le passage de cette homilie d'Origène avait été entendu la veille dans la même abbaye. Et ce passage, très probablement, susciter des craintes et même des protestations. Est-ce qu'il n'est pas dangereux d'entendre de telles paroles sur la tristesse du ressuscité, puisque le ressuscité est ressuscité? Voilà. Alors Bernard, dans son sermon, avoue que Origène, ici, s'est exprimé dans un langage peut-être plus abondant que prudent, plus disert que sobre. Et alors, dans la communauté des moines, il se produit un grognement insolite. On le sait par Bernard lui-même, qui dit « Qu'est-ce que ce grognement insolite que j'entends parmi vous ?» Voilà. Ces grognements insolites sont sans doute provoqués par un moine admirateur d'Origène, et qui trouve que Bernard, au fond, bat en retraite, sous la pression des autres moines qui ont trouvé que le texte d'Origène était excessif. Alors Bernard se reprend, en déclarant qu'il n'entend pas se prononcer sur la pensée d'Origène et que Origène, dans le cas présent, a pu parler simplement par hyperbole. Voilà, c'est intéressant, ce sermon, c'est le père de Lubac qui a attiré l'attention sur ce sermon tout à fait intéressant, qui montre que ça n'allait pas de soi, hein, de faire passer l'idée que le ressuscité puisse connaître ainsi la tristesse. Alors, il faut évidemment se garder de tout anthropomorphisme, mais je pense que, sur le fond, Origène a tout à fait raison. Enfin, on ne peut pas penser que le ressuscité, dans le temps de l'histoire, soit indifférent, impassible, par rapport à toutes les épreuves du mal qui surgissent en ce monde, et notamment par rapport aux formes de mal, de péché, qui sont déclenché au sein même de l'Église. On pourrait d'ailleurs donner d'autres exemples encore. Bon, j'ai pris le cas d'Origène, mais on peut penser à Pascal. Jésus est en agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Si vous vous rappelez aussi, j'avais lu un extrait où j'avais en tout cas évoqué un extrait des frères Karamazov de Dostoïevski, Jésus qui passe à Séville au VIe siècle, le grand inquisiteur qui l'interpelle. Par la voie de la littérature, pour Dostoïevski, c'était une autre manière de dire la même chose. Au fond, le ressuscité, tout ressuscité qu'il soit, si je puis dire, mais peut-être en réalité parce qu'il est ressuscité, avec justement son humanité pleinement assumée et transfigurée, n'est pas insensible, n'est pas indifférent aux épreuves de l'histoire, hein, que ce soit des épreuves dont les chrétiens sont victimes, ou que ce soit des épreuves auxquelles les chrétiens participent eux-mêmes, ou qui contribuent eux-mêmes à déclencher. Le même Origène, dont j'ai cité un extrait, une homélie, le même Origène, à plusieurs reprises dans son œuvre, a des formules du genre « À quoi sert que le Christ soit venu, soit né un jour du temps, s'il ne naît pas en moi chaque jour ? À quoi sert que le Christ ait souffert un jour du temps, s'il ne souffre pas en moi chaque jour ?» etc. Enfin, on est en présence d'une réflexion finalement très, très attestée par la tradition sur ce qui advient, au ressuscité dans le temps de l'histoire. Donc, ça c'est le premier versant. Premier versant négatif, en quelque sorte. Le ressuscité demeure soumis dans l'histoire au mal, à la violence, au péché. Il faut dire ça avec beaucoup de prudence, hein, parce que encore une fois, gardons-nous de tout anthropomorphisme, mais il s'agit de penser une sorte de retentissement dans le Christ ressuscité lui-même, et donc en Dieu même, de ce qui advient de mal dans l'histoire. Mais il faut bien sûr en venir à l'autre versant, le versant positif. Il faut essayer de comprendre comment se manifeste la relation du ressuscité avec l'histoire, là où, au contraire, le ressuscité est véritablement accueilli, et encore une fois, il ne peut être accueilli que dans et par l'Esprit. Cette relation du ressuscité avec l'histoire, positivement cette fois, se manifeste dans le fait que là où le ressuscité est accueilli par l'Esprit et dans l'Esprit, il a, dans cette histoire même, un corps. Ce corps du Christ ressuscité dans l'histoire, il faut en parler d'une manière qui ne nuise en rien à la considération du corps personnel du ressuscité, dont je parlais tout à l'heure. Il y a bien une vie personnelle du ressuscité. Mais il s'agit de comprendre que le corps ressuscité du Christ exprime la personne qu'il est devenu durant cette vie. La personne du Christ ressuscité, c'est une personne qui est totalement aimante. On peut dire ça à la lumière, évidemment, de toute la révélation, de tout le Nouveau Testament. La personne du Christ ressuscité est une personne totalement aimante. Or, la personne aimante, la personne qui aime, fait de la personne aimée son propre corps. Voilà, c'est par ce biais qu'on peut s'acheminer vers une compréhension de ce que signifie le corps du ressuscité dans l'histoire des hommes. Ce n'est pas simplement le corps personnel du Christ en tant qu'il est ressuscité d'entre les morts, c'est le corps composé de tous ceux et toutes celles qui précisément sont l'objet de l'amour du ressuscité et qui répondent positivement à cet amour. Ce qui autorise à dire cela, c'est notamment, parmi d'autres textes, le passage du chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens, que j'ai transcrit ici, un passage très connu. Le contexte est celui de l'union conjugale, de l'amour entre l'homme et la femme. « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne n'a pris sa propre chair en aversion. Au contraire, on le nourrit, on l'entoure d'attention, comme le Christ fait pour son Église. Ne sommes-nous pas des membres de son corps ? De son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront qu'une seule chair. Ce mystère est grand, je déclare qu'il concerne le Christ et l'Église. Donc on a au fond ici l'image de l'époux et de l'épouse. Donc le Christ ressuscité comme l'époux par rapport à l'Église qui est ici présentée comme l'épouse. Et l'amour de l'homme et de la femme, du mari et de la femme, est présenté comme étant lui-même le mystère de cette relation entre le Christ et l'Église. Ceci est un grand mystère. Il concerne le Christ et l'Église. Voilà. Donc c'est par ce biais, déjà, on peut comprendre le sens de cette métaphore paulinienne du corps du Christ. Le ressuscité est présent à l'histoire des hommes, là du moins où il est accueilli positivement dans l'esprit. Le ressuscité est présent à l'histoire des hommes dans et à travers ce corps de ceux et celles qu'il aime et qu'il aime, dans les deux sens, amour réciproque, dont l'amour de l'homme et de la femme est précisément l'image et le signe et le mystère. Alors, l'image de l'époux et de l'épouse est d'ailleurs complétée chez Paul lui-même par une autre image, l'image de la tête et du corps. Vous savez, chez Paul, on a les deux images, l'époux et l'épouse, et puis, d'autre part, l'image de la tête et du corps. La tête d'un côté, les membres du corps de l'autre. Ce qu'on peut retenir en tout cas à travers ça, c'est que la personne du Christ ressuscité, la personne du Christ glorifié, fait de la personne qu'il aime son propre corps. La personne qu'il aime, c'est évidemment tel croyant, mais c'est aussi la communauté de ceux et celles qui répondent positivement à l'appel du Christ. Il faudrait ajouter à cela les textes eucharistiques. Il y avait tout à l'heure une question qui touchait l'Eucharistie. Ben, nous y venons précisément. Il faudrait ajouter en effet ici une mention des textes eucharistiques qui sont relatifs eux-mêmes au corps du Christ. Parce que ce n'est pas seulement par la foi et par l'accueil de l'Esprit que nous sommes mis en relation avec le Christ ressuscité dans le temps de l'histoire, mais c'est aussi par ce que nous appelons les sacrements et de façon tout à fait unique à travers l'Eucharistie. C'est en tout cas ce qui ressort explicitement de la première épître aux Corinthiens, où Paul, au chapitre 10, Paul le dit de manière tout à fait explicite que par le fait même de communier au pain eucharistique, au même pain eucharistique, par ce fait même, les croyants deviennent un seul corps. Nous devenons le corps du Christ. Par le fait même de communier au pain eucharistique, nous devenons le corps du Christ. Vous vous rappelez, c'est dans 1 Corinthiens 10, verset 17, 1 Corinthiens 10, verset 17, « Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps, car tous nous participons à cet unique pain. Voilà. » Ou encore, 1 Corinthiens 11, verset 29, « Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit sa propre condamnation. » Mais si vous voulez, l'idée est toujours la même. Par le fait même de communier à ce même pain que nous discernons comme étant le corps du Christ, par ce fait même, nous devenons effectivement le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, comme disait saint Augustin. Voilà. Donc c'est très important, en effet, d'aller jusqu'à l'Eucharistie. Mais on pourrait aussi raisonner de façon analogue pour chacun des sacrements. Enfin, en tout cas, pour l'Eucharistie, c'est là que c'est le plus net. On ne peut pas être plus intimement uni au Christ ressuscité que justement par la communion à ce même pain eucharistique à la faveur de laquelle nous devenons ou redevenons membres d'un même corps qui est précisément le corps du Christ ressuscité. C'est pourquoi l'Eucharistie va être appelée dans la tradition corps mystique. Corps mystique. Le père de Lubac, Henri de Lubac, a montré dans un livre célèbre, paru dans les années 1940, le père de Lubac a montré que cette expression corps mystique était d'abord appliquée à l'Eucharistie. Et c'est par la suite seulement qu'elle était appliquée à l'Église, ou à l'Église au sens très large, hein, tous ceux qui vivent d'une manière ou d'une autre de l'Esprit du Christ. Mais originellement, l'expression corpus mysticum, corps mystique, était appliquée à l'Eucharistie. C'est par le fait même de communier au pain eucharistique que les croyants deviennent membres d'un même corps qui n'est autre que le corps du Christ ressuscité. Ce que j'essaye de suggérer à travers cela, c'est que l'ecclésiologie, la réflexion sur l'Église, et la sacramentaire, la réflexion sur les sacrements, se greffent directement sur notre parcours proprement christologique. Quand on réfléchit sur le ressuscité et la relation du ressuscité avec l'Église dans le temps de l'histoire, eh bien, directement, on croise la question de l'Église et on croise la question des sacrements. Pour le dire en d'autres termes encore, le corps du Christ ressuscité, hein, j'ai bien dit tout au début, c'est un corps personnel. Hein, le ressuscité vit d'une vie personnelle auprès de son Père, dans l'Esprit. Mais le corps du Christ ressuscité n'est pas seulement le corps individuel, personnel du Christ, dans la gloire, le corps du Christ ressuscité, précisément parce que ce corps est tout entier don de soi et qu'il n'est que don de soi, ce corps du Christ ressuscité s'étend à la personne aimée ou à la communauté de ceux et celles qui sont l'objet de son amour. Et finalement, ce corps personnel du Christ ressuscité s'étend à tous ces membres de l'humanité, et particulièrement, bien sûr, tous ces membres de l'Église, entendu moins qu'elle est sainte, dans la mesure où ces membres de l'humanité ou ces membres de l'Église accueillent dans l'esprit la présence du Christ et deviennent réellement le corps du Christ. J'ajoute une réflexion encore, c'est que ce que je viens de dire ne signifie pas pour autant que le Christ coïncide purement avec son Église. Bon, alors, non seulement parce que il y a du péché dans l'Église. Bon, alors, rien que pour cette raison, c'est évident que le Christ ressuscité ne coïncide pas purement et simplement avec l'Église. Bon, important de le rappeler. Mais, bien sûr, l'Église, nous croyons aussi, enfin, nous, je crois en l'Église une et sainte. Mais même si on considère l'Église dans sa vocation profonde, c'est-à-dire la vocation à la sainteté, hein, si l'Église n'est pas sainte, c'est qu'elle est infidèle à sa vocation. Mais normalement, de soi, l'Église est sainte. Donc si on considère l'Église en tant que sainte, même à ce point de vue, il ne faut pas dire que le Christ coïncide purement et simplement avec l'Église sainte. On peut ici se référer à notre expérience élémentaire de la corporéité. Nous avons chacun un corps, on peut même dire nous sommes notre propre corps, nous coïncidons avec notre corps et en même temps, nous sommes en vis-à-vis de notre corps. Nous le dépassons. Il y a une sorte de transcendance, si vous voulez, de la conscience ou de l'âme par rapport à la corporéité. Eh bien, cela vaut d'abord du Christ lui-même par rapport à l'Église, même si l'Église est envisagée comme une Église sainte. C'est-à-dire que, d'un côté, le Christ est intimement lié à son corps, qui est l'Église. Le Christ est intimement uni à l'Église, identifié à elle. Hein. Je crois que c'est Bossuet, au XVIIe siècle, qui disait « L'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué ». L'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. Enfin, en tant que l'Église est sainte, évidemment. Donc, d'un côté, le Christ ressuscité est le plus intimement uni à l'Église et même identifié à l'Église sainte, mais en même temps, le Christ ressuscité lui-même demeure libre par rapport à cette Église, il est souverain à l'égard de cette Église, il est le Seigneur de cette Église. Et d'ailleurs, c'est ce que suggère, à mon avis, l'imbrication des deux métaphores concurrentes ou complémentaires que l'on trouve chez Paul. C'est-à-dire d'un côté l'image de l'époux et de l'épouse, et d'autre côté l'image de la tête et du corps. Parce que d'un côté, l'image nuptiale, conjugale, de l'époux et de l'épouse, elle dit bien l'unité intime du Christ et de l'Église sainte. Voilà. Tandis que l'autre image, la tête et le corps, eh bien, elle met davantage en évidence la distinction entre le Christ ressuscité qui est la tête et puis les membres du corps. Donc vous voyez comment les deux images se complètent, l'une au fond attirant davantage l'attention sur l'unité intime du Christ et de son corps, l'autre attirant davantage l'attention sur la distinction entre la personne du Christ ressuscité et son corps ecclésial. Ce qui revient à dire que le Christ glorifié est bien un avec l'Église sainte, mais que cette unité n'est pas une pure et simple coïncidence. Et en nous rappelant ce que nous avons vu dans la deuxième partie de ce cours, quand on réfléchissait sur le concile de Chalcédoine, la fameuse définition christologique de Chalcédoine, on peut dire que la relation du Christ ressuscité avec le corps de l'Église sainte doit être comprise comme une relation sans séparation et sans confusion. Sans séparation, parce que le Christ glorifié est bien un avec les membres humains de l'Église sainte, et en même temps sans confusion, parce que le corps personnel du Christ ressuscité n'est pas purement et simplement absorbé dans le corps de l'Église sainte. Le Christ n'est pas simplement un membre du corps ecclésial, il en est la tête, pour reprendre la seconde métaphore paulinienne. Le Christ est le Seigneur de ce corps. C'est le père Yves Congard qui disait qu'il pouvait y avoir en ecclésiologie des risques de nestorianisme et de monophysisme. Je crois que de fait, on peut très bien transposer analogiquement à l'ecclésiologie ce que nous avons vu avec la définition christologique de Chalcédoine, pour situer avec autant de justesse que possible la position du, pour rendre compte avec autant de justesse que possible de la position du Christ par rapport à son corps. Je me suis permis de développer assez longuement ce point parce que je crois que c'est très très important pour nous faire réaliser que justement, cette relation du Christ avec l'histoire, elle est infiniment réelle. C'est quelque chose qui... Voilà, pourquoi la christologie ne s'arrête pas avec la résurrection et l'ascension. C'est quelque chose qui continue de se jouer en creux ou en positif. En creux, chaque fois que le Christ est refusé, ou en but aux épreuves, et en positif, chaque fois que le Christ se trouve accueilli dans et par l'Esprit. Alors je le disais en même temps, on ne peut pas se contenter d'une réflexion sur le Christ dans sa relation à l'histoire humaine. Il faut essayer de dire quelques mots, bien que ce soit difficile, sur la présence du Christ à la nature et au cosmos. Parce qu'on ne peut pas se limiter précisément à la seule considération de la relation du Christ ressuscité avec les humains étant finalement si peu de choses, une fois replacés dans la nature, plus largement, bien sûr, dans le monde, dans le cosmos. J'ai bien conscience que, en abordant ces points, nous sommes probablement dans les balbutiements, et que nous avons beaucoup à faire encore dans le champ de la christologie pour avancer, pour approfondir la réflexion. Il y a quand même eu, surtout dans l'Occident latin, une très grande propension à s'intéresser de manière privilégiée à la relation du Christ ressuscité avec l'histoire humaine, et notamment une histoire marquée par le péché. Mais voilà, aujourd'hui, il nous faut élargir considérablement. Élargir d'autant plus que, pour cela, nous ne manquons pas de ressources dans les textes fondateurs de la Bible. L'être humain situé dans le monde, dans l'univers. Si on s'en tient simplement au Nouveau Testament, eh bien, on constate que un certain nombre de textes, en effet, situent le Christ ressuscité, non pas simplement par rapport aux êtres humains, mais par rapport au monde, au cosmos. On peut donner pour exemple, mais il y en aurait d'autres, l'Épître aux Colossiens. L'hymne, en particulier l'hymne qui ouvre l'Épître aux Colossiens. Mais on pourrait aussi s'appuyer sur la littérature joannique, hein, déjà dans l'Évangile, et puis plus encore, bien sûr, sur l'Apocalypse. Et plus lointainement, la réflexion sur le rapport du Christ au monde s'enracine dans l'attente eschatologique du peuple juif. Le peuple juif, on voit ça à travers des textes des siècles précédents immédiatement la venue du Christ, le peuple juif n'attendait pas simplement un Messie, mais il attendait un Messie au sein d'un monde, au sein d'un ciel, au sein d'une terre. Voilà. C'est une dimension très, très concrète de l'eschatologie juive. Et le Nouveau Testament, bien sûr, hérite de cela. La réflexion sur la relation du Christ à la nature et au cosmos est également très présente chez des pères de l'Église, enfin en tout cas chez certains d'entre eux, chez Irénée, clairement, et chez les pères grecs. Là où les pères latins, surtout à partir d'Augustin, ont été surtout, se sont surtout focalisés, si je puis dire, sur la question de l'être humain, d'Adam, Adam pécheur, Adam sauvé, etc. Les pères grecs témoignent d'une conception très 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 ample, très ample, de cette présence du Christ au monde, au cosmos. Un auteur comme Grégoire de Nice, par exemple, au IVe siècle, quelqu'un qui ne peut pas penser le mystère du Christ sans le situer au sein, précisément, de l'univers en son ensemble. Alors, la tradition occidentale, elle, prête une attention toute spéciale, a prêté une attention toute spéciale à la vie personnelle du Christ ressuscité, mais d'une part, la réflexion sur le lien du Christ à la nature, au cosmos, est restée toujours très vivante dans l'Orient grec et dans le monde de l'orthodoxie, c'est extrêmement présent. Voilà. Et d'autre part, aujourd'hui même, en Occident même, la considération du rapport à la nature, la considération du rapport au monde prennent une nouvelle importance. C'est relativement récent, c'est surtout depuis quelques décennies. Cette relation du Christ avec ce qui déborde l'humanité, elle s'exprime de deux manières au moins. Elle s'exprime d'abord dans le cadre d'une attention au rapport à la nature. Certainement, l'un des théologiens qui, en Occident, se sont le plus intéressés à la question, c'est Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann, j'en ai parlé l'autre jour à propos de sa réflexion sur le Dieu crucifié. Mais Moltmann, surtout dans les années plus récentes, a beaucoup réfléchi sur ce qu'il appelle les dimensions écologiques de la théologie. La réflexion de Moltmann, en particulier dans son livre « Jésus, le Messie de Dieu », consiste à dire « La nature n'est pas simplement un décor devant lequel se déroule l'histoire de l'humanité. » Voilà. Moltmann réagit contre tendance occidentale à tout focaliser sur l'être humain et sur sa destinée, un peu au mépris d'une considération de la nature. Et il dit donc que la nature n'est pas simplement un simple cadre ou un simple décor extérieur devant lequel se déroule l'histoire sainte de l'humanité, mais la nature, c'est véritablement à considérer comme un partenaire de l'humanité. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait dans la ligne de la tradition biblique. En effet, on voit ça dès le premier chapitre de la Genèse. Et donc, Moltmann, dans cette perspective, invite à aller au-delà des frontières de ce qu'il appelle la christologie historique, c'est-à-dire une christologie réfléchissant sur l'histoire humaine, le Christ par rapport à l'histoire humaine. Moltmann invite à développer ce qu'il appelle une christologie de la nature. Bon, l'expression peut paraître audacieuse, peut-être excessive, elle n'est peut-être pas très heureuse, cette expression, mais ce qui est important, c'est de voir ce qu'il entend à travers cela. Ce qui veut dire, au fond, je me suis contenté ici de citer deux lignes dans lesquelles il résume sa position. Le Christ ressuscité n'est pas présent seulement dans les victimes humaines de l'histoire du monde, mais il est présent également dans la nature sacrifiée. Voilà. C'est intéressant de voir, de ce point de vue-là, le déplacement de la réflexion de Moltmann. Hein, parce que dans Le Dieu crucifié, qui a été écrit il y a une quarantaine d'années, von Moltmann était surtout marqué par le drame de l'Holocauste, la Seconde Guerre mondiale, les victimes de la guerre, etc. C'est dans ce cadre qu'il développait toute sa réflexion sur le retentissement de la souffrance humaine dans le mystère même de Dieu, le Dieu crucifié, ce que j'avais montré il y a 3 semaines. Mais plus récemment, dans les décennies plus récentes, Moltmann s'est rendu très attentif au fait que le Christ continuait de quelque manière aussi d'être atteint et d'être crucifié, là où la nature se trouvait sacrifiée, dans la mesure où cette nature, précisément, est comprise comme l'environnement de l'homme, l'environnement de l'être humain. Bon, je donne l'exemple de Moltmann, mais il y aurait d'autres théologiens qui s'inscrivent dans cette ligne. En France, c'est peu représenté à ce jour. Si on accepte l'un ou l'autre théologien, c'est quand même peu représenté. Bon, en Allemagne, ça l'est davantage, notamment avec des théologiens comme Moltmann. Mais ces thèmes-là se développent beaucoup actuellement, un peu aux États-Unis et surtout dans des pays d'Asie. En Asie, moi je suis frappé, en suivant les revues de théologie asiatique, je suis frappé par le fait que régulièrement vous trouvez des articles sur la nature, le mystère de Dieu par rapport à la nature, la Trinité, la nature sacrifiée, etc. Enfin, c'est très très présent, évidemment dans le contexte de toutes les préoccupations, toutes les inquiétudes, toutes les angoisses concernant l'avenir de la planète, le réchauffement climatique. C'est dans ce contexte-là qu'il y a une sorte de nouvelle porte d'entrée pour la christologie. Encore une fois, dans le monde de l'orthodoxie, mais ça c'est beaucoup plus traditionnel, dans le monde de la théologie orthodoxe, c'est aussi quelque chose de très très présent, cette sensibilité à la façon dont le mystère du Christ ressuscité peut être, selon les cas, refusé ou au contraire accueilli en fonction de l'attitude qu'on adopte par rapport au cosmos. Alors, il y a une autre ligne de pensée plus ancienne, relativement plus ancienne, mais qui est tout à fait importante par rapport à notre réflexion sur la présence du Christ ou sa relation avec la nature et le cosmos, c'est celle qui a été représentée il y a un siècle par Teilhard de Chardin, dans la première moitié du XXe siècle. Non pas d'abord dans le cadre d'une réflexion sur ce qu'il advient au Christ à travers le rapport que nous entretenons avec la nature, parce que ce n'était pas encore la problématique de Teilhard de Chardin, mais plutôt par le biais d'une réflexion sur le Christ cosmique, l'expression étant une expression très chère à Teilhard de Chardin. Je cite quelques lignes de Teilhard. Jusqu'ici, explicitement, la pensée des fidèles ne distinguait guère en pratique que 2 aspects du Christ, l'homme Jésus et le Verbe de Dieu. Le Verbe Dieu, pardon. Or, il est évident qu'une troisième face du complexe théandrique, tout ce qui touche la relation de Dieu et de l'homme, demeurer dans l'ombre. Je veux dire, le mystérieux personnage superhumain, partout sous-jacent aux institutions les plus fondamentales et aux affirmations dogmatiques les plus solennelles de l'Église, celui en qui tout a été créé, donc allusion à l'hymne de l'Épître aux Colossiens, celui en qui tout a été créé, celui in quo omnia constant, celui qui par sa naissance et son sang ramène toute créature à son Père, le Christ de l'Eucharistie et de la Parousie, le Christ consommateur et cosmique de saint Paul. Jusqu'ici, je le répète, ce tiers aspect du Verbe incarné demeurait mal séparé des deux autres. Et au jeu Teilhard, ce troisième aspect demeurait insuffisamment pris en compte. Remarquez bien que dans le cours que je propose ici, c'est un peu la même chose. Enfin, je fais quand même un effort, hein. au moins le chapitre 10. Hein. Enfin, ce n'est que le dixième du cours. Hein. Voilà. Parce qu'on s'est surtout arrêté sur les deux premiers aspects, la question de l'homme Jésus et la question du Verbe Dieu. Mais en même temps, je voulais... Pardon, oui. Le Christ qui accomplit, le Christ qui porte toute chose à son accomplissement. Parce que ça... Voilà. Disons que je pense, encore une fois, que nous sommes plutôt au début d'une réflexion dans ces directions. Et je crois en même temps, à la suite de Teilhard, justement, que c'est tout à fait important et que ça le sera probablement de plus en plus. En fait, les deux lignes de pensée que je viens de distinguer ne sont pas du même ordre. Parce que la christologie de la nature, pour reprendre l'expression de Moltmann, c'est une christologie qui, en fait, met en évidence avant tout la responsabilité des êtres humains par rapport à la nature. C'est ça qu'il entend par christologie de la nature. Ce n'est pas la perspective de Moltmann n'est pas, à proprement parler, la perspective d'une théologie du Christ cosmique. Tandis qu'avec Teilhard de Chardin, j'ai terminé par lui, mais en fait, je pense que sa perspective est très très prometteuse pour l'avenir. Avec Teilhard de Chardin, nous avons bien affaire à une théologie du Christ cosmique. Car ce qui est en jeu pour Teilhard, c'est pas simplement la réflexion sur notre responsabilité par rapport à la nature, d'ailleurs c'est pas vraiment cette problématique qui était la sienne, mais ce qui est en jeu pour lui, c'est l'idée que le Christ ne doit pas être simplement considéré comme cet homme que l'on a contemplé sur les chemins de Palestine, ni même comme le Verbe de Dieu préexistant, fait chair, mort et ressuscité, mais que le Christ doit être considéré comme celui qui, en tant que ressuscité, étend ou doit étendre ou étendra un jour sa seigneurie sur l'univers, sur le cosmos lui-même. Alors cette perspective teilhardienne a des racines, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, dans la tradition du Nouveau Testament et dans la tradition patristique grecque. Là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de pistes de travail, de chantiers qui s'ouvrent pour la recherche. Cette perspective invite à penser qu'il y a déjà, de quelque manière, une action du Christ ressuscité sur le monde. Pas seulement sur les humains, mais sur le monde. Alors, comment penser cette action du Christ ressuscité, alors même que nous avons tellement de démentis dans l'histoire, de tout ce, nous avons tellement de font de signes de ce qui résiste précisément à l'emprise du Christ ressuscité. Comment penser malgré tout une action du Christ ressuscité qui déborde les humains et qui, de sa manière, touche la matière, touche le monde, touche le cosmos? On peut, je ne fais ici que suggérer quelques pistes que vous pourrez vous-même compléter, développer, que nous pourrons développer, compléter. Il y a une première piste qui est tout à fait importante, c'est la piste d'une théologie de la création. Une théologie de la création. Mais une théologie de la création comprise comme création toujours à l'œuvre. Voilà, création toujours à l'œuvre. S'il est vrai que par lui tout a été fait, selon Colossiens 1, s'il est vrai que par lui tout a été fait, alors on peut comprendre aussi que par lui, par le Christ ressuscité, le monde se trouve maintenu dans l'être. Le monde se trouve maintenu dans le dynamisme de vie qui le porte et qui l'anime. Le Christ ressuscité travaille. Mon Père travaille toujours, en l'évangile de Jean. Dieu même, en sa Trinité, est toujours à l'œuvre. Voilà, là, il y a une piste, une première piste qui, je crois, serait très féconde pour avancer dans cette réflexion. Il y a une deuxième piste, c'est de nouveau la théologie de l'Eucharistie. La théologie de l'Eucharistie. Et là, Saint Paul lui-même, dans l'esprit de Saint Paul lui-même, Teilhard nous montre le chemin. Teilhard nous montre le chemin, en particulier à travers sa magnifique messe sur le monde. Je ne sais pas si ce texte vous dit quelque chose. Un jour où Teilhard se trouve seul dans le désert d'Ordos, en Chine, en 1923. Il y avait déjà eu un précédent en 1917, quand il était dans les forêts de l'Aisne durant la Première Guerre mondiale. En tout cas, il reprend cela en 1923, alors qu'il se trouve dans un désert en Chine, où il n'a pas la possibilité d'avoir du pain et du vin pour célébrer l'Eucharistie. Et c'est à ce moment-là que lui vient cette magnifique, magnifique méditation qu'il intitule « La messe sur le monde ». Puisque cette fois encore, Seigneur, non plus dans les forêts de l'Aisne, mais dans ce désert où il n'y a ni pain ni vin, je me trouve conduit à vous prier, alors je prendrai sur moi la matière de cette terre et je l'offrirai à vous, etc. Et ça continue avec beaucoup de réflexions sur à la fois toutes les actions menées par les hommes, mais aussi tout ce qu'ils subissent, les diminutions, comme dit Teilhard, et c'est toute cette matière, au fond, matière de la nature et matière de l'expérience humaine qui devient, faute de pain et de vin, la matière de la consécration eucharistique. Voilà. Donc là, il y a une intuition prodigieuse. À travers cela, ce que Teilhard donne à penser, c'est que là où l'Eucharistie est célébrée, il y a déjà, au moins à travers les éléments matériels du pain et du vin, eh bien, l'attestation d'une action du ressuscité sur la matière. Et cette action du le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ. C'est bien quand même une action du ressuscité sur la matière, sur les éléments matériels. Et au fond, ce que Teilhard donne à penser à travers la messe sur le monde, c'est que cette matière du pain et du vin qui deviennent corps et sang du Christ sont comme telle anticipation de ce que doit devenir le monde ou l'univers lorsqu'ils seront eux-mêmes corps et sang du Christ. Je m'enflamme. Mais il y aurait beaucoup de choses, à penser à partir de là. Je crois que c'est une intuition absolument géniale. Et en même temps, très traditionnelle, qui retrouve, je crois, la grande tradition des pères grecs, dans la ligne aussi de l'Épître aux Colossiens. Et puis, je pense aussi que cette réflexion sur la relation du Christ ressuscité avec le cosmos, le monde, eh bien, elle pourrait être encore explorée, approfondie de bien d'autres manières que nous ne connaissons pas à ce jour. Pourquoi le Christ ressuscité n'agirait-il pas sur des énergies, sur des puissances du monde qui nous sont inconnues, puissances matérielles ou puissances spirituelles? Rassurez-vous, je ne vais pas vers le New Age, je vous rassure. Mais je crois vraiment que sur le fondement d'un certain nombre de textes pauliniens, notamment dans les Deutéropauliniennes, surtout l'Épître aux Colossiens, on peut vraiment envisager l'action de Christ qui déborde son opération, en quelque sorte, sur les humains et qui a une dimension proprement cosmique. Je crois qu'il y a vraiment de sérieux points d'appui pour cela, à condition, bien sûr, que cette action du Christ ressuscité sur les énergies, sur les puissances, comme dit Paul, soit toujours référée à ce qui s'est passé, une fois pour toutes, historiquement, au Golgotha, lorsque le Christ a donné sa vie pour tous et pour la multitude. Alors, il est vrai que le monde, l'univers, est en même temps marqué par ce que les physiciens appellent l'entropie, la dégradation de l'énergie, par la mort. Le monde, l'univers, est marqué lui-même par la mort. C'est pas simplement chaque être humain qui est atteint par sa mort individuelle, mais c'est le monde, le cosmos lui-même, et nous le savons au fond de plus en plus, hein, la fragilité du monde, de l'univers, et du coup, on peut aussi poser la question, n'est-ce pas sur ces forces de mort également que doit agir, que devra agir le Christ ressuscité, sinon dans le temps de l'histoire, du moins à la fin des temps. Mais comme il est la fin, je reporte à la fin du cours ce que je voulais dire sur cette fin. Voilà. Le Christ, comment vont penser cette action du Christ ressuscité sur la mort elle-même à la fin des temps. C'est ce que nous verrons donc mardi prochain, puis je terminerai le parcours par une reprise, une conclusion un peu générale de l'ensemble de ce que nous aurons vu.